Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le président, messieurs les directeurs, chers collègues, chers amis. Je suis particulièrement ému de prendre la parole ici aujourd'hui au CNAM pour toutes sortes de raisons biographiques qui sont simplement anecdotiques. Mon premier job dans l'enseignement, je l'ai eu ici. J'étais chargé de cours à 20 ans ici et j'enseignais les mathématiques, c'est relativement élémentaire, à des étudiants qui avaient deux fois mon âge. Et ça a été une de mes meilleures expériences pédagogiques. Je suis aussi ému parce que le département d'études cognitives, qui vient de se transformer en institut d'études cognitives, un ABEX, que j'ai fondé à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 2002, est actuellement localisé dans un immeuble historique au 29 rue d'Ulm, qui est l'immeuble où jadis il y avait la cinémathèque, où certains d'entre nous nous souvenons qu'il fallait payer 101 francs de l'époque pour avoir droit d'entrée, et il fallait avoir le franc unique parce que la caissière refusait de faire la monnaie. Mais cet immeuble du 29 rue d'Ulm était également, a été longtemps donc, le siège non seulement du CNDP mais de l'INRP, qui est désormais l'Institut français de l'enseignement, qui est à Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon, avec laquelle, en tant que personne, en tant que membre adjoint en quelque sorte de l'École normale d'Ulm, nous entretenons les meilleures relations. Très rapidement, Sankore, Tombouctou, c'est les histoires de l'oncle Paul que je lisais en recevant Spirou tous les mercredis matins. Hein, c'était la poste qu'il faisait. Et quant au Centre national d'enseignement à distance, il m'a permis de passer, en même temps que je faisais des mathématiques, passer propre et lettres. Et moi aussi, j'ai reçu environ 13 kilos de devoirs et de polycopiés qui, à l'époque, étaient renéotés. Donc, en l'espace d'une vie, puisque je suis en fin de carrière, en l'espace d'une vie, on a vu, au fond, j'ai vu défiler les changements dont M. Benhamou vient de nous faire part. Alors, pourquoi je suis ici? Je pense que je suis ici pour deux raisons. D'abord, je m'intéresse aux sciences cognitives. J'étais très heureux d'entendre à distance l'expression « sciences cognitives », qui me paraît, pour des raisons que j'expliquerai, plus adéquate que la neurobiologie, parce qu'elle est plus inclusive et que, notamment, elle inclut justement ces sciences sociales et humaines qui sont une partie absolument essentielle de l'approche scientifique des problèmes de l'éducation. Et je suis ici aussi parce que j'ai fondé et je continue d'animer un petit think tank qui s'appelle COMPAS, au sein du département d'études cognitives, et qui s'intéresse précisément à la question, de manière tout à fait pluridisciplinaire, à la question de l'enseignement, de l'éducation, des sciences cognitives et des nouvelles technologies. Les termes du problème sont les suivants. Il est de notoriété publique que l'éducation à tous ses niveaux et dans tous les lieux du globe, que ce soit dans les pays, disons, à haute densité éducative ou les pays à densité plus faible, l'enseignement est en crise, est en cours d'une mutation importante. Deuxièmement, les TIC ont un potentiel colossal pour l'éducation. Ça a été extrêmement bien dit par les orateurs précédents. D'ailleurs, si nous avons du retard, c'est que les orateurs précédents, au lieu de se contenter de nous souhaiter bonne chance, nous ont déjà livré en miniature, depuis Monsieur le ministre jusqu'à Monsieur Benhamou, un tableau extrêmement éloquent de la situation. Et en un sens, je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'aurais deux leçons, peut-être, à proposer en complément de ce qui a été dit, mais je n'ai pas l'impression du tout que nous ayons que nous ne soyons pas entrés dans le vif du sujet. Donc nul besoin d'insister sur cet aspect du potentiel d'éthique. Et puis troisième point, c'est comme si je me répétais à cause de mon grand âge, troisième point, crise et mutation de l'éducation. En d'autres termes, oui, il y a un potentiel, mais pour l'instant, l'éducation n'est pas moins en crise et n'est pas moins en mutation dangereuse et inquiétante qu'elle l'était avant l'éthique. D'ailleurs, l'éthique, et je crois qu'un certain nombre de collègues et d'amis auront l'occasion de le dire plus tard, par exemple Alain Chaptal, peut-être, nous fournira, peut-être, s'il le souhaite, des données précises que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, montrant que les énormes investissements en TIC qui sont consentis, notamment au Royaume-Uni, ne semblent pas, pour l'instant, avoir profondément changé la situation. Donc, voilà la situation de problème dans laquelle nous nous trouvons. Comment se fait-il donc que l'éthique n'ont pas encore notablement contribué à résoudre la crise, à faire advenir la mutation souhaitable, et que cela augure-t-il pour demain? Donc, il me semble que c'est la question que nous devons tous nous poser, et je vais essayer d'apporter, non pas, disons, des éléments de réponse, mais des recommandations en vue d'obtenir des éléments de réponse dans les années qui viennent. Or, les réponses possibles, on en a tous à l'esprit, n'est-ce pas? Par exemple, on l'a beaucoup entendu déjà ce matin, après tout, l'éthique ne sont qu'un outil, et les problèmes ne sont pas ceux que cet outil peut nécessairement résoudre. Nous ne savons peut-être pas encore utiliser pleinement cet outil à bon escient. Peut-être il n'y a-t-il pas une seule crise, mais il y a et un seul problème et une seule mutation, il y en a autant que de situations concrètes. Et puis, au fond, qu'en savons-nous? À savoir, est-ce que vraiment il y a une crise? Est-ce que vraiment il y a une mutation et de quel ordre est-elle? Et après tout, qu'est-ce que nous savons de l'inefficacité prétendue d'éthique? On nous dit, est-ce que nous sommes en mesure, en tant que citoyens, en tant que chercheurs, en tant que décideurs publics, sommes-nous en mesure de répondre sérieusement à cette question? Alors, comme je suis devenu philosophe, après avoir été mathématicien pendant environ la moitié de ma carrière, je vais revenir à Kant. On nous a cité Michel Serres, j'en prends un petit peu antérieur, de grand philosophe. Les trois questions kantiennes, vous les connaissez. Que puis-je savoir? Qu'ai-je le droit d'espérer? Et que dois-je faire? Et je donne la traduction pour les besoins de cet exposé. Que peuvent tirer les éducateurs des connaissances scientifiques disponibles? C'était ça le cahier des charges que M. Benhamou m'a confié, essayer de répondre à cette question, de fournir des éléments. Que pouvons-nous espérer tirer donc des connaissances scientifiques dans le futur? Et comment devons-nous nous organiser pour faire progresser les connaissances utiles sur le terrain? Et je pense que dans le cadre de ce colloque et dans le contexte créé par les interventions précédentes, c'est finalement la troisième question qui est la plus importante, qui est la plus décisive, et c'est celle sur laquelle, si vous ne retenez qu'une chose de ce que je vais essayer de dire dans la petite demi-heure qui me reste, c'est ce que j'aurais à dire sur cette troisième question. Comment devons-nous nous organiser pour faire progresser les connaissances utiles sur le terrain? Alors, ce que nous savons, parce que nous savons déjà des choses. Première question de Kant, que savons-nous? Alors, sur ce qui se passe à l'école, nous avons beaucoup de micro-connaissances, essentiellement empiriques, fragmentaires, locales, non transportables d'un lieu à l'autre, en général, et non transférables et généralisables d'un domaine à l'autre, d'un ordre d'enseignement à l'autre, d'un mode de fonctionnement formel ou informel à l'autre. En revanche, nous avons un énorme savoir-faire et beaucoup de bonnes pratiques. Sur ce qui se passe avec les TIC appliquées à l'éducation, nous avons quelques micro-connaissances empiriques, fragmentaires et locales. Là, c'est plutôt la nuit complète. Et nous avons très peu de savoir-faire encore, systématique, et très peu de bonnes pratiques. En revanche, nous avons plein de candidats aux bonnes pratiques. Ça, il y a autant de candidats, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que peut-être y a-t-il davantage qu'une bonne pratique, c'est même tout à fait certain. En revanche, il ne peut pas y avoir autant de bonnes pratiques que de candidats actuels à la dignité de bonnes pratiques. Donc, il y a un tri à faire. Comment allons-nous le faire? Ce que nous savons, alors, deuxième partie, ce que nous savons sur ce qui se passe dans la tête des agents. Alors, ce que nous savons sur ce qui se passe dans la tête des agents, c'est-à-dire ce qu'on appelle les processus donc cognitifs. Donc, nous savons beaucoup de choses en termes théoriques généraux. Et par là, j'entends des termes qui s'appliquent à un agent étudié en laboratoire, in vitro, si vous voulez, dans un contexte fixé, qui est essentiellement un contexte de laboratoire ou de modélisation informatique ou d'analyse conceptuelle. Nous savons encore assez peu en termes que je dirais réels singuliers, au sens où je parle de l'agent in vivo, l'agent en situation, qui est dans un contexte qui est non contrôlé, qui est quelconque et qui est variable, aussi variable que peuvent être les situations humaines, aussi variable que sont les situations d'éducation, d'enseignement, d'apprentissage formel, informel, continu, discontinu et ainsi de suite. Notez que la distinction entre in vitro et in vivo, qui s'applique strictement parler à la biologie seulement, mais qu'on peut généraliser, la distinction entre l'agent ou des processus ou des systèmes étudiés en laboratoire dans des conditions idéales et les mêmes agents, systèmes, processus en situation réelle. Ce gap existe même pour des choses aussi simples que des leviers ou des rouages ou des horloges. Seulement, la différence avec la situation qui est la nôtre, c'est que concernant les rouages, les leviers, les pompes hydrauliques et ainsi de suite, le gap est beaucoup plus étroit parce que les connaissances de base sont extraordinairement denses et que les pratiques et les transitions de situations de laboratoire à des situations réelles sont balisées par 3 siècles ou 4 siècles des arts de l'ingénieur. Ces 3 ou 4 siècles, nous ne les avons pas encore, s'agissant de la cognition étudiée en laboratoire et des processus cognitifs à l'œuvre pour un être humain en situation. Sur ce qui se passe dans les ordinateurs et dans la tête de leurs utilisateurs, là aussi nous savons beaucoup en termes théoriques généraux, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que l'ordinateur, c'est nous qui l'avons fabriqué, comme l'a rappelé M. Benhamou il n'y a pas très longtemps. L'idée, comme vous le savez peut-être, en est germée dans le cerveau fécond d'un logicien qui s'intéressait à un problème mathématique abscond, logico-mathématique abscond, qui était Alan Turing. Et c'est à partir de ces idées de ce qui peut se passer précisément dans la tête d'un agent calculateur qu'on a fabriqué le premier ordinateur. L'ordinateur est fabriqué à l'image de l'homme, une image hautement simplifiée et idéalisée. Et puis, les ordinateurs se prêtent pour toutes sortes de raisons à l'étude théorique et empirique. Et donc, nous savons aussi pas mal de choses dans certaines situations simples. Ce sont les sciences cognitives, dont les neurosciences, qui produisent ces savoirs. Alors maintenant, qu'est-ce que nous savons de ce qui se passe à l'école du fait de ce qui se passe dans la tête des agents? Il se passe des choses à l'école et une partie de ce qui se passe à l'école s'explique à partir de ce qui se passe dans la tête des agents. C'est évident, les agents, c'est évidemment aussi bien les apprenants, les étudiants, que les maîtres. Alors, nous savons moins que ce que nous voudrions savoir, mais nettement plus que ce que pensent les sceptiques. Il y a une classe importante de sceptiques, et peut-être chacun d'entre nous, à certains moments, abrite-t-il un sceptique, qui pensons qu'au fond, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est pas... Nous savons pas grand-chose et c'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'il y a des processus qui ont été testés au cours de générations et de générations de maîtres enseignant l'arithmétique élémentaire ou la géographie ou l'histoire ou la grammaire aux élèves, et que c'est à partir de ce savoir empirique qu'on peut procéder et que ce qui se passe dans la boîte noire sous le crâne, au fond, n'a pas une importance essentielle, surtout qu'on ne sait finalement pas grand-chose. Il y a cette idée-là, ce scepticisme qui existe encore. Donc, on ne sait moins... On ne sait pas encore assez, loin de là, mais on sait nettement plus que ce que pensent les sceptiques. Et de ce qui se passe de spécial lorsque les agents utilisent justement les technologies de l'information et de la communication, relativement peu de choses, mais néanmoins, dans certaines situations simples, qui sont en général pas celles de l'éducation, malheureusement, mais par transfert de ce que nous savons de situations, par exemple, de pilotage ou de navigation, nous pouvons en déduire un certain nombre d'hypothèses sur ce qui peut se passer dans la tête d'élèves et de maîtres utilisant les TIS. Alors, d'où nous viennent ces connaissances? Je l'ai dit, des sciences cognitives. John Breuer, qui a beaucoup insisté sur les rapports, disons, généraux, conceptuels entre les sciences cognitives et les sciences de l'éducation, a posé ce que j'appelle une équation, c'est évidemment un grand mot, c'est pas une équation précise, c'est simplement l'idée que les sciences cognitives sont à l'éducation, ce que la biologie, mettant la biologie fondamentale, est à la médecine. Et la raison est simple, c'est que l'éducation est un système d'apprentissage, essentiellement un dispositif hautement complexe d'apprentissage, et que l'apprentissage, ça n'est rien d'autre qu'une modification durable des capacités cognitives d'un être humain. Alors, pour donner un peu de chair à ça, hein, qui reste quand même relativement abstrait et méta, comme on dit, je vais donner quelques exemples d'implication des sciences cognitives pour l'éducation. Et je distingue trois niveaux. Une implication minimale, qui désigne une approche structurale extrêmement générale, je vais en dire deux mots. Je vais la contraster avec une application moyenne, qui est la reprise de problèmes alors survenant sur le terrain de l'éducation, des problèmes proprement éducatifs, dans une perspective inspirée par les neurosciences. Et finalement, l'implication forte, c'est celle à laquelle chacun pense tout de suite, mais qui n'est jamais que la troisième marche de cet escalier, la traduction de théories de pointe des sciences cognitives en maxime pour certains moments ou types d'enseignement. Alors, l'implication minimale, c'est l'idée très générale que ce que les acteurs, donc élèves et apprenants ou professeurs, sont détenteurs de structures mentales spécifiques qui forment une architecture et qui ne sont pas, contrairement à l'image classique, une table rase, une table de cire infiniment plastique et malléable. Elle est plastique, elle est malléable, mais pas infiniment. Elle a une structure de la même manière, si vous voulez, que le bois a un certain grain. Et si vous faites un peu de bricolage, vous savez qu'il faut obéir au grain du bois, sinon vous obtenez des résultats, disons, suboptimaux. Donc cette architecture conditionne le processus éducatif, et le processus éducatif consiste, qu'on le sache ou non, qu'on en soit clairement conscient dans tous les mécanismes, consiste à s'appuyer sur elles pour les faire évoluer. Alors, une des idées architecturales de base, c'est que l'esprit humain est composé de facultés. Est-ce qu'il y a cette hypothèse générale, c'est la modularité. Sur la modularité, sa nature, son côté construit, né, etc., il y a d'immenses débats. Mais il y a cette idée générale, malgré tout, que le cerveau humain a des facultés relativement distinctes qui peuvent être développées dans une certaine mesure indépendamment les unes des autres et en tout cas qui sont inégalement développées à différents stades du développement de chaque apprenant et qui sont évidemment font l'objet d'importantes différences individuelles qui sont évidemment parfaitement connues des maîtres et des parents et des êtres humains en général. Une autre idée structurelle très générale, c'est que la pensée, c'est difficile. Donc l'apprentissage, c'est difficile. Ce que j'entends par la pensée, c'est, disons, la pensée consciente, organisée, celle que nous mettons en œuvre de manière délibérée pour résoudre un problème. Nous savons tous que c'est horriblement pénible. Dès qu'il s'agit de faire ça, tout à coup, il faut consulter l'email, il faut aller prendre un verre de lait au frigidaire, il faut passer un coup de fil urgent. Pourquoi ? Nous reculons devant l'effort. Si on oublie ça, on s'imagine que l'éducation du jour au lendemain, à la suite de je ne sais quelle repensée fondamentale ou d'introduction de je ne sais quel outil génial, tout à coup, apprendre, ça va être facile, marrant, etc. C'est marrant, ça peut être marrant, c'est jamais facile. Cette perspective, donc, qui est une implication encore très très minimale, hein, c'est pas du rocket science comme on dit en français, c'est une orientation générale de la pensée, c'est une manière très générale de prendre le problème, nous permet notamment d'envisager une conciliation entre deux notions qui semblent en fait contradictoires, la notion d'architecture qui implique une certaine rigidité et qui peut être couplée à une idée d'innéité qui peut faire frémir certains, de déterminisme génétique, etc., et puis de profil, et d'autre part de plasticité qui est évidemment ce à quoi nous aspirons tous dans nos vies personnelles et évidemment dans notre pratique d'enseignant. Donc une conciliation est possible et vraiment les sciences cognitives ouvrent cet horizon d'une conciliation possible et ce n'est pas la moindre de leurs contributions à la situation de problème d'aujourd'hui. Alors l'implication moyenne. Cette implication moyenne, j'en donne quelques exemples. Je la caractérise simplement de la manière suivante. Il ne s'agit pas de problématiques qui viennent des sciences cognitives et qui donnent aux sciences cognitives l'opportunité de développer des théories extrêmement fines. Ce sont plutôt des réponses qu'apportent, des réponses relativement peu détaillées, en des termes relativement peu techniques, que les sciences cognitives peuvent apporter à des questions qui sont qui sont posées, qui se posent naturellement aux éducateurs. Donc, je donne quelques exemples que je suis obligé de faire défiler. Donc, ça, c'est la maladie du PowerPoint. On fait défiler des points. Motivation et théorie naïve de l'intelligence. Les travaux tout à fait remarquables et durables de Carol Dweck. Attendez, si je retrouve mon pointeur, je peux même vous montrer. Où est-ce qu'il est, mon pointeur? Il est là, pardon. Oups. Il a filé mon pointeur. Alors, attendez. La maladie de la souris. Voilà. Mindset. Un ouvrage important que je vous recommande, qui va vous inspirer, vous exciter, vous ouvrir les horizons. L'idée est assez simple. Il y a deux grandes conceptions spontanées de l'intelligence. La conception avec laquelle j'ai été élevé et qui me pèse dessus depuis que j'ai échoué aux grandes écoles, c'est que l'intelligence, c'est comme les yeux bleus ou c'est comme la taille. Je suis pas très grand et je suis pas entré à l'école normale supérieure et c'est comme ça, c'est dans ma nature. Ça, c'est la conception fixiste de l'intelligence, et elle a droit de cité. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là. Hein, l'intelligence est en partie comme la taille ou les yeux bleus, mais seulement en partie. Simplement, nous sommes plus ou moins dominés par cette idée que l'intelligence est un donné initial. Il y en a qui sont plus brillants, il y en a qui sont moins brillants. Bon. Il y a une autre idée, c'est que l'intelligence, c'est un effet émergent. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme les tables et les chaises, les yeux bleus ou la table ou la taille. C'est quelque chose qui est le résultat d'un travail systématique sur soi-même. Eh bien, au-delà de cette idée, voyez-vous, très générale, qui s'exprime en des termes extrêmement communs, il y a des recherches telles que celles de Carol Dweck qui sont à l'intersection de la psychologie différentielle, de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale, des travaux sérieux, attestés, etc., qui montrent que selon que l'élève a une conception fixiste ou une conception émergentiste de l'intelligence, son comportement au cours de sa trajectoire scolaire va être fondamentalement différent. S'il est brillant et s'il n'a pas de problème, il entrera à l'école normale supérieure, il deviendra énarque et tout ira très bien pour lui. Mais c'est vraiment une très petite partie de la population. Il y a toutes sortes de gens qui rencontrent à un moment une difficulté. Ceux qui croient, qui sont dominés par l'image fixiste, et encore une fois, c'est l'image dont nous avons tous hérité dans le système français, malheureusement, enfin beaucoup d'entre nous du moins, nous sommes bloqués. Et tout à coup, nos performances se dégrade au lieu de s'améliorer. On dit, ah ben oui, ben moi je ne peux pas sauter 1m90, je ne peux pas sauter 2m8, ce n'est pas dans mes muscles, ce n'est pas dans mes gènes, c'est comme ça, il faut que je me résigne, il faut que je connaisse ma place, je suis moyen et je resterai moyen toute ma vie. Je dois choisir une carrière en conséquence, etc. Ce, au contraire, le même élève qui rencontre les premières difficultés au moment où il passe entre au collège, il entre en seconde, il entre en classe préparatoire, et se dit, non, c'est pas, oui d'accord, j'ai eu 3 à mon contrôle de maths, pas grave, il faut que je fasse mieux, il faut que je travaille plus. Celui-là va s'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Et ce n'est pas simplement une recette de grand-mère, ça rejoint évidemment une intuition de grand-mère, hein, ce que Willingham appelle la booby psychologie, c'est-à-dire la psychologie des grand-mères, booby veut dire grand-mère en yiddish. Eh bien, ça rejoint donc une conviction de grand-mère, hein, une sagesse commune, mais c'est attesté par des travaux tout à fait intéressants et qui ont déjà eu toutes sortes de résonances, notamment dans un système qui est très perméable à ces idées. Les théories du passage de l'état novice à l'expertise, qui peut s'appliquer aussi bien à l'apprenant qu'au maître. Qu'est-ce qu'est un maître expert? En quoi son expertise juste? Voilà une théorie également, des théories qui, encore une fois, se posent au niveau éducatif. Hein, c'est en quelque sorte une question de base de l'éducation et à laquelle un certain nombre de réponses assez riches sont apportées par les sciences cognitives. L'idée de la mémoire comme résidu de la pensée, donc une idée qui est due à Willingham, est-ce que mon truc va me... Voilà, je viens de découvrir que ce livre tout à fait intéressant, un livre grand public, hein, très facile à lire, c'est le temps d'un week-end et même d'une partie d'un week-end, « Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école » a été traduit en français. La mémoire comme résidu donc de la pensée, ce qui s'inscrit en mémoire à long terme, bon, voilà un terme qui vient de la psychologie cognitive, qui est maintenant bien entré dans la conceptualisation commune, en tout cas dans les milieux éducatifs, et le contenu de ce qui a été pensé pendant la phase d'apprentissage. Ça peut paraître assez, là aussi, pas loin de la trivialité. Quand on creuse cette idée-là, on en tire des maximes tout à fait importantes pour la conception de l'enseignement. Exemple, si vous dites, voilà, vous allez enseigner la division en espèces, hein, la taxonomie élémentaire à des élèves, je ne sais pas, de 10 ans ou 12 ans, et vous lui dire, ce serait bien d'avoir un tableau, n'est-ce pas, où on verrait, par exemple, les liens entre différentes espèces, les oiseaux, les hommes, etc. Voilà.
Sur un TNI.
Alors, vous pouvez le faire sur un TNI, mais vous pouvez le faire sur un TNI, ou vous pouvez le faire avec des bouts de papier crépon collés sur un tableau. Si vous insistez trop sur la technique, que ce soit papier crépon ou que ce soit TNI, ce qui va en rester le lendemain et a fortiori un mois plus tard, c'est la technologie du papier crépon et la technologie du TNI. Les élèves auront essentiellement passé l'heure de cours à découper du papier crépon ou à faire fonctionner le TNI, ou à disposer des couleurs merveilleuses parmi les 6 millions de couleurs disponibles, etc. Ils n'auront pas réfléchi à ce qu'est une taxonomie, à ce qu'est une dérivation d'espèces. Et ils ne la retiendront pas. Voilà donc un exemple. Alors négativement, cette implication des moyennes, en quelque sorte, des sciences cognitives peut fournir des démentis à certaines conceptions communes. Par exemple, la théorie des styles cognitifs, que les élèves sont plus ou moins visuels, haptiques, etc. C'est pas tout faux. Oui, bien sûr, il y a des élèves qui sont plus sensibles aux informations qui viennent par le médium de l'audition ou par le médium de la vision ou par la parole ou par le toucher. Oui. En revanche, il est faux de... pour l'instant, la science ne semble pas avoir dégagé une conception stable de style cognitif capable d'informer l'éducation au point d'encourager l'éducation à passer beaucoup de temps à envisager des méthodes différentes adaptées aux différents styles cognitifs. Donc, la notion de style cognitif il y a encore une fois un grain de vérité, il n'y a pas de fondement solide, et donc ce n'est pas la peine de perdre son temps à imaginer qu'on va apprendre l'addition des fractions à des élèves selon les 3 ou 4 ou 8 ou 10 styles cognitifs qui auraient été soi-disant repérés. Une autre idée fausse, dans une certaine interprétation, je ne sais pas moi qui vais évidemment contester que Montaigne ait raison, Montaigne a forcément raison en distinguant et en plaçant au-dessus de la tête bien pleine, la tête bien faite. Tout le monde voit ce qu'il veut dire, là aussi, au niveau intuitif. Néanmoins, si ça nous encourage à dire que ce n'est pas la peine que les élèves accumulent un certain nombre de connaissances de base, par exemple parce qu'elles sont disponibles sur Internet et que les dates du soi-disant découvreur de Tombouctou, on les trouve facilement en une minute sur Internet avec son iPad, donc ce n'est pas la peine d'avoir des faits, cette idée est complètement fausse. On n'intègre pas de connaissances nouvelles, en particulier on n'intègre pas de connaissances abstraites qui sont fondamentales sans une très riche et très dense accumulation de faits de base. Alors, vite, car le temps passe, implication forte. Alors, de nouveau, une modalité négative. Je commence par la modalité négative. Donc, dissiper des erreurs. Alors, effectivement, je crois que l'un des orateurs, M. Benhamou, a donc expliqué que la popularisation de certaines idées, en partie venant d'une espèce de poke, de pop neurosciences, parfois encouragé d'ailleurs par des hypothèses lancées par les scientifiques eux-mêmes, ce qui est leur métier, les hypothèses. Les scientifiques, ils lancent des hypothèses, ensuite ils travaillent, ils lancent une hypothèse, ça prend 3 minutes, et ensuite il faut 3 ans pour s'apercevoir que l'hypothèse est fausse. C'est ce que font les neuroscientifiques, c'est ce que font tous les scientifiques, et c'est la procédure, comme vous le savez, normale en science. Néanmoins, il suffit qu'un journaliste, ou mettons... je veux être désagréable vis-à-vis de personne. Quelqu'un qui a envie, au fond, de publier un livre grand public et qui se dit que si dans ce livre grand public, il explique que si les enfants sont stimulés par du Mozart entre 6 mois et 18 mois, ils entreront certainement à l'école polytechnique. Évidemment, tout le monde aime ça, et donc, du coup, on met Mozart pour le petit bébé. C'est ainsi que se créent des neuromythes. Certains de ces neuromythes sont, en réalité, ont déjà provoqué beaucoup de dégâts. De ce point de vue-là, nous sommes en France relativement à l'abri. On ne se laisse pas facilement, en quelque sorte, ébranler dans nos convictions. Mais aux États-Unis et en Grande-Bretagne, au contraire, ces neuromythes ont fait beaucoup de dégâts. Donc l'idée que la stimulation précoce, c'est la clé de la réussite. L'idée de périodes critiques en dehors desquelles on n'apprend plus rien. Alors il y a bien entendu pour l'enseignement, pour l'apprentissage d'une seconde langue, une question de période critique, mais elles sont beaucoup moins fixes en quelque sorte et beaucoup moins générales qu'on le pense justement dans le cadre de ces neuromythes. Cette perte générale de la capacité à apprendre, alors évidemment vous allez dire je suis juge et partie, mais heureusement les neurosciences et les sciences cognitives me confirment dans l'idée que même à un âge avancé, on peut continuer à apprendre et en fait beaucoup, toute la génération des baby boomers, oui c'est très rassurant pour nous, et autres neuromythes. Et puis des modèles fantaisistes du système cognitif. Par exemple, M. Levine, qui est présenté sur Internet et sur la couverture de ses livres que le number one de la psychologie de l'éducation aux États-Unis, propose un modèle de l'esprit qui n'est tout simplement pas attesté, le moins du monde. Il y a là aussi certains éléments qui sont exacts, difficiles de contester, certaines des visions, mais cette idée que le cerveau est organisé selon le schéma que vous avez sous les yeux est tout simplement fausse. Elle n'est tout simplement pas attestée. Il n'y a rien qui a permis à M. Levine, sauf un parcours tout à fait superficiel de la littérature, d'affirmer que c'est ainsi qu'est fait le cerveau. Et ça, je peux vous dire, ça a des effets absolument colossaux sur le compte en banque de M. Levine, mais de manière générale, chez les éducateurs ou les formateurs du secteur non public, éventuellement, qui en font leur chou gras. Alors, implication forte, il faut que j'accélère maintenant, implication forte, modalité positive, alors des théories développées, du raisonnement, de la lecture, de la numération, ça ce sont les domaines qui sont les mieux connus, et à juste titre, ce sont des domaines dans lesquels les sciences cognitives ont des choses extraordinairement précises à nous apprendre, qui sont destinées à avoir des effets absolument massifs sur nos conceptions de l'éducation du très jeune enfant, et éventuellement d'autres enfants. Des idées tout à fait passionnantes sur ce qu'on appelle la pédagogie naturelle. Actuellement, les deux chercheurs hongrois qui sont responsables.
Oui. Je trouve ça suffisamment intéressant.
Oui.
Prenez votre temps peut-être pour développer ces points-là.
D'accord.
Okay. Donc vous nous parlez des.
D'accord, très bien. Alors, sur, par exemple, sur la numération, donc ce sont des travaux qui sont assez bien connus, puisque un des héros mondiaux de cette affaire-là, c'est Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et quelqu'un avec lequel nous travaillons constamment. Donc, l'idée qu'il y a fondamentalement deux systèmes qui sont, alors je ne veux fâcher personne, ils ne sont pas nécessairement innés ou génétiquement programmés, peu importe, ils sont présents et opératoires chez le très jeune enfant, c'est-à-dire chez l'enfant préverbal. Ils sont d'ailleurs, rassurez-vous, présents chez toutes sortes d'espèces d'animaux, les singes capucins par exemple, et d'autres espèces animales. Ce sont des systèmes qui permettent, il y a deux systèmes relativement indépendants, la reconnaissance de l'existence de ces deux systèmes est tout à fait décisive, notamment dans la détection éventuellement précoce de déficits. Un système qui est de numération approximative, qui permet au très jeune enfant de dire d'entrée de jeu, dire d'emblée très rapidement que s'il y a trois bonbons sur une page et il y en a huit sur une autre page ou sur l'autre moitié de la page, eh bien huit c'est plus grand que trois en gros, qui lui permet approximativement d'évaluer les ordres de grandeur, si vous voulez. Et puis, il y a un autre système qui permet d'identifier exactement un certain nombre. Alors, en l'occurrence, chez le jeune enfant, le très jeune enfant, c'est les nombres de 1 à 3. 1, 2, 3 sont instantanément reconnus et opérationnalisables. Alors, une des plus belles choses que les sciences cognitives apportent, et je suppose qu'on trouve ça sur YouTube, regardez un certain nombre d'expériences de Elisabeth Spelke, de René Baillargeon, de Susan Carey, de Frank Kyle, d'un certain nombre d'autres chercheurs, qui montrent comment mettre en évidence, chez le tout petit, dans certains cas, ce sont des nouveau-nés, des enfants de quelques heures. Dans beaucoup d'autres cas, ce sont des enfants de quelques semaines, de quelques jours, de quelques semaines, éventuellement de quelques mois. Vous verrez comment on arrive à extraire, en quelque sorte, par des moyens indirects d'une grande subtilité, d'une grande ingéniosité, extraire de leur comportement évidemment très élémentaire des connaissances aussi certaines que peuvent l'être les connaissances scientifiques, c'est-à-dire toujours faillibles, sur ces capacités non seulement de reconnaître des noms, mais d'être surpris si, par exemple, dans une manipulation que nous dirions être l'addition de 1 plus 1 égale 2, alors évidemment, on ne peut pas poser à un enfant de quelques mois ou de quelques jours 1 plus 1 égale 2, oui ou non, mais on peut lui mettre un objet, puis un autre objet différent, tirer un rideau, occultant, remonter le rideau, il s'attend à voir deux objets. S'il ne voit pas deux objets, il est surpris et il manifeste cette surprise par différents moyens de succion non nutritive accélérée ou de fixation du regard. Ces expériences sont magnifiques et à la limite, elles sont encore plus belles que leurs résultats. Les résultats sont passionnants. S'ils se confirment au fil des années et des décennies, ce sera très bien. Je pense qu'ils sont relativement solides. Mais personnellement, en tant que philosophe, je suis, et en tant que parent, je suis émerveillé par l'ingéniosité et la délicatesse, la subtilité de ces expériences. Hein, c'est une des plus belles choses que produisent les sciences cognitives. Et remarquez-le, il n'y a pas de neurosciences là-dedans. Les neurosciences peuvent arriver en adjonction. Il y a des moments où ces expériences atteignent des limites, alors on cherche à poser des questions supplémentaires à l'aide des neurosciences. Dans le cas des très petits, c'est un peu embêtant parce qu'il n'est pas question de les mettre dans un scanner pour toutes sortes de raisons. Alors il existe maintenant des appareils qui ont été mis au point notamment dans un laboratoire qui est maintenant rattaché au DEC, qui est le laboratoire de sciences cognitives, de psycholinguistique et de sciences cognitives fondé par Jacques Meller à l'EHESS il y a très longtemps et qui est actuellement à l'École normale. On a mis au point une machine qui s'appelle la NIRS, la Near Infrared Spectroscopy, je crois. Voilà. Alors, les théories de la... Ce que nous savons maintenant sur ces systèmes de numération, donc deux systèmes de numération, nous pouvons l'étendre à un certain nombre d'autres, disons, connaissances de base, qui sont notamment la physique, quelque chose sur le comportement des objets physiques, leur permanence, etc. Donc, si vous voulez, c'est du Piaget. Si j'ai le temps, je reviendrai sur Piaget, mais je risque de ne pas avoir le temps. C'est du Piaget, mais du Piaget actualisé. Un Piaget serait aujourd'hui un spécialiste de sciences cognitives, un des meilleurs, certainement, parmi nombreux. Mais les sciences cognitives, qui n'existaient d'ailleurs pas à l'époque sous ce nom-là, ne se sont pas arrêtées avec Piaget, c'est ça l'erreur, elles se prolongent. Et d'ailleurs, les chercheurs qui sont les chercheurs et les chercheuses de pointe qui ont beaucoup développé ce domaine se réclament tout à fait ouvertement de Piaget. Donc, simplement Piaget s'était complètement trompé au niveau des années. Hein. C'est beaucoup des systèmes dont Piaget postulait l'émergence à 5 ans, à 7 ans, à 9 ans sont en réalité présents quasiment dès la naissance. Donc nous savons maintenant pas mal de choses sur ces modules ou sur ces noyaux de savoir extrêmement élémentaires qui sont présents dès la très jeune enfance. La théorie de la pédagogie naturelle, qui est développée par Gergely et Chibra, qui sont titulaires du prix Jean Nicot cette année et qui justement sont en train, pratiquement en ce moment même, il y a 4 conférences, ils en ont donné 2, ils vont encore en donner 2, si vous voulez les y assister, c'est à l'École normale supérieure, salle des actes, et vous pouvez les regarder sur Internet très rapidement. Je vous conseille là aussi, si ces sujets vous intéressent, ça vaut vraiment la peine. Vous verrez comment Gergely et Chibra montrent qu'il y a chez l'être humain et pas du tout chez les grands singes, par exemple, une disposition naturelle à la pédagogie. C'est évidemment très important. C'est vraiment pas possible pour moi d'expliquer. Il y a une certaine subtilité de cette théorie, mais elle est très importante. Elle s'inscrit, disons, dans un cadre plus large qui sont les travaux sur les dispositions naturelles de l'enfance à la coopération, hein, des petits enfants humains à la coopération. Un des livres les plus, là aussi je pense toujours à des livres relativement courts et pas trop techniques, parce que on n'a pas le temps de lire des livres de 600 pages dans des disciplines différentes que les nôtres. Le très petit livre avec des discutants de Tomasello est l'un des grands du domaine, qui s'appelle « Why we cooperate », »,« Pourquoi nous coopérons », ça ne coûte pas très cher, vous apprendra énormément de choses sur les capacités spontanées du très jeune enfant humain à la coopération. Alors, des théories sur le changement conceptuel, donc ça c'est probablement l'une des contributions les plus anciennes des sciences cognitives à l'éducation, c'est quelque chose qui s'est développé dès les années 1980, et sûrement beaucoup d'entre vous dans la salle en savent plus sur, disons, le devenir de cette théorie du changement conceptuel dans l'éducation. L'idée de base, c'est que l'enfant arrive avec des conceptualisations, dont certaines remontent donc à la toute petite enfance, au premier jour de la vie, et que l'apport pédagogique consiste à le faire basculer dans une autre conceptualisation, par exemple d'une physique en gros de l'impétus, une physique aristotélicienne, à une physique newtonienne, et que ce basculement est difficile. Non seulement il est difficile, mais il laisse subsister les intuitions aristotéliciennes. Donc, l'élève, pendant longtemps, et très souvent l'adulte aussi, continue de véhiculer deux conceptions, la conception de l'école et la conception antérieure. Alors, là où les sciences cognitives apportent une contribution décisive, et dans ce domaine, les neurosciences prennent une place toute particulière au sein des sciences cognitives, elles sont absolument fondamentales, essentielles, ce sont les théories des déficits. Donc, sur la dyslexie, la dyslexie, c'est une des belles histoires des temps contemporains. Il arrive pour les dyslexiques ce qui est arrivé pour les surmuets quand l'abbé Pierre s'est rendu compte que ce n'étaient pas des crétins des Alpes, c'était des êtres parfaitement normaux, mais qui n'avaient pas accès tout simplement à la modalité auditive, d'où évidemment, faute d'un repérage de cette précoce de ce déficit, une arriération mentale acquise et non pas du tout congénitale. La même chose est en train de se passer pour la dyslexie. Non seulement nous savons qu'il existe plusieurs types de dyslexie, nous savons aussi, nous commençons à connaître les mécanismes fondamentaux de la dyslexie, et donc nous sommes en mesure maintenant d'élaborer, au-delà bien sûr de tout ce qui a été fait et qui est très valable, de bonnes pratiques empiriques, etc., une véritable pédagogie pour la dyslexie, pour les différents types de dyslexie. Également pour la dyscalculie, qui est un déficit qui a été mal reconnu et mal connu jusqu'à tout récemment. La dyspraxie, qui est probablement la chose la plus mystérieuse et peut-être la plus intéressante, en tout cas, celle qui exige de la part des sciences cognitives concernées et du monde de l'éducation des soins les plus attentifs. C'est très difficile, en quelque sorte, de compenser, d'élaborer une pédagogie adaptée à la dyspraxie. Et de manière générale, les learning disabilities typiques ou atypiques. Le trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité, dont par exemple la chercheuse canadienne Adele Diamond a montré qu'il en existe deux types, ce qui n'était pas du tout reconnu jusqu'à présent par les catégories psychiatriques. Élitiste dans tout ça. Bon, l'argument général, je l'ai donné. Oui, alors je vais très vite. L'argument général, je l'ai dit, l'ordinateur est fait à l'image, c'est une sorte de modèle de l'esprit humain, extrêmement schématique et qui laisse de côté plein de détails et qui a des propriétés propres. Nous avons beaucoup de connaissances actuellement dans des disciplines qui sont l'ergonomie cognitive, les usages, etc., qui n'ont pas encore été appliquées véritablement très à fond, de manière très général à l'éducation, mais qui sont néanmoins très prometteuses. Et puis j'allais développer un exemple de réflexion plus générale qui allait exactement dans un des propos de M. Madeleine, d'ailleurs, vous avez remarqué que le ministre est un remarquable professeur, contrairement à ce qu'il a dit. Il nous a notamment parlé, je crois, de la question de la présence, et sur cette notion de présence, il y a une contribution importante des sciences cognitives et même de la philosophie, à vrai dire, pour élucider la question de savoir s'il faut faire une présence de plus en plus synthétique avec des personnages et des situations de plus en plus finement dessinées, on s'y croirait presque, ou au contraire, des acteurs, ou au contraire, s'il faut aller plutôt du côté d'une présence artificielle, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de rapport de ressemblance si fort que ça avec la réalité. Alors, avons-nous vraiment besoin des sciences cognitives dans tout ça? J'espère que vous vous posez la question, parce que ce n'est pas nécessairement totalement concluant ce que j'ai dit. Posez-vous donc la question. Il y a toutes sortes d'objections qu'on peut faire. D'abord que seules les neurosciences apportent du solide, ou que la psychologie, bon, Piaget est à l'œuvre depuis longtemps et c'est d'elle que viennent les connaissances profondes et utiles. Ce n'est pas la peine, pourquoi encore, etc. Que le sens commun et l'expérience des maîtres suffisent et sont, elles, réellement applicables. Hein, et elles nous trompent moins souvent, hein, c'est très mauvais de s'embarquer dans un faux modèle issu des neurosciences, il vaut mieux s'en tenir à ce moment-là à la connaissance commune. Et puis que les sciences de l'éducation et les sciences sociales sont les principaux pourvoyeurs de connaissances dans le domaine. Chacune de ces objections est intéressante et chacune d'entre elles contient un grain de vérité, mais également a un grand potentiel de fausseté. Et si j'avais eu le temps, j'aurais essayé, peut-être dans les débats au cours des jours qui viennent, autour des 2 jours qui viennent, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ce que nous pouvons espérer connaître, alors là, j'irai très vite. Alors d'abord, je veux insister sur le fait que les sciences cognitives ont en quelque sorte 2 bras. Un bras court et un bras long, c'est peut-être pas très joli. Le bras court, c'est celui dont je viens de parler. Hein. C'est l'application, dans un schéma conceptuel relativement familier, l'application de connaissances issues des sciences cognitives qui sont pertinentes pour l'éducation. C'est à ça qu'on pense immédiatement. Qu'on lui mette le label neurosciences ou pas, c'est une autre question. Voilà, il y a des connaissances qui s'appliquent. Mais il y a un bras long, et je voudrais insister pendant 1 minute, et puis j'aurai encore 1 minute pour parler d'un dernier point et je m'arrêterai. Le bras long, c'est l'introduction de ce que j'appellerais une attitude scientifique critique, fondée sur les preuves, une longue pratique de l'interdisciplinarité, qui se prête donc notamment à des extensions à de nouvelles disciplines, l'économie, la psychosociale, la sociologie, la connaissance des institutions, enfin toutes ces disciplines qui relèvent des sciences de l'éducation, qui relèvent des sciences humaines et sociales, voire des sciences biologiques et des sciences dures. Cette pratique de l'interdisciplinarité, un demi-siècle, les sciences cognitives ont un bon demi-siècle d'existence qui peut s'étendre. Et puis, une méthodologie applicative, une certaine façon, disons, à la fois prudente et audacieuse, de passer donc du laboratoire à la salle d'école. Alors, évidemment, il y a des limites. Il y a toujours des limites. Une science, ça ne s'applique jamais facilement. Il y a toujours ce qu'on peut appeler, ce que ma collègue Catherine Laurent appelle le saut périlleux, hein, que quand on passe de l'univers de la recherche académique à l'univers d'une pratique, que ce soit l'agronomie, que ce soit l'hôpital et la santé publique, que ce soit l'éducation, et qu'on est toujours... que la difficulté de ce saut périlleux, les risques qu'on y prend, y compris les risques personnels et institutionnels, peut nous induire à y renoncer, à dire au fond, la science et les professeurs, ça va comme ça, de toute façon, on ne sait pas trop quoi faire, et puis ils ne sont pas d'accord entre eux, donc passons-nous de la science. Je pense que c'est de très mauvais conseils. Alors, ce que nous devons faire, très vite, nous devons adopter cette méthodologie, disons, scientifique et critique, hein, qui repose essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler très rapidement l'éthique de la discussion critique. Le renoncement à un certain dogmatisme, enfin bon, c'est un peu du préchi-prêcha, mais c'est absolument fondamental. Je pense que c'est une des influences les plus les meilleures que les sciences cognitives, indépendamment encore une fois des connaissances précises qu'elles apportent, peuvent apporter au domaine. Une certaine manière de dire on regarde l'évidence, on regarde les frais, on discute entre nous et on avance. Vous direz, c'est pas d'une grande originalité, oui, mais malheureusement ça a été pas toujours, disons, l'attitude la plus fréquente s'agissant d'éducation, qui est évidemment sujette, et c'est tout à fait normal, à d'immenses pressions idéologiques, politiques, d'intérêts institutionnels, etc. Et puis, cesser de perdre son temps dans des débats qui me paraissent, à moi, aujourd'hui, complètement stériles. Humanisme, scientisme, culturalisme, naturalisme, technophobie versus technomadie. Et des rêves du grand soir, genre, on va tout changer. Hein, le premier théorème du changement éducatif fondamental, c'est que ce changement éducatif fondamental est impossible. Et ce théorème n'est pas un théorème mathématique, mais on peut dire qu'il est largement, c'est un théorème empirique qui est largement prouvé. Alors là, j'avais à propos de naturalisme et l'apport des sciences cognitives, à l'époque c'était la psychologie, à l'éducation, une très belle citation. que je ne vous lirai pas. Je mettrai le PowerPoint quelque part
sur notre site, sancoré.org.
Vous pourrez voir, c'est une citation de Julien Freud, qui est le traducteur et l'introducteur de Max Weber en France. Et il se réfère à un contemporain de Weber qui écrivait ces lignes tout à fait admirables et tout à fait transposables aujourd'hui en 1900. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème était bien posé en 1900. Ne perdons pas trop de temps en 2011 à nous quereller sur la question de savoir si une approche humaniste entre en contradiction avec une approche scientifique en matière d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser les feux de la recherche théorique dans les sciences cognitives, en particulier bien comprendre que les sciences cognitives ont désormais complètement pris leur tournant social. Les sciences cognitives ne l'étaient pas à l'origine, mais maintenant elles savent très bien que la dimension sociale est essentielle. Ils cherchent à repérer en quelque sorte les traces ou les prédispositions sociales chez le jeune enfant. J'en ai parlé à l'instant. Et de manière générale, elles se rapprochent tous les jours davantage des sciences sociales. Et en particulier, évidemment, les sciences cognitives de l'éducation, qui sont un domaine qui commence à être très développé dans un certain nombre de pays, qui est malheureusement encore très peu développé aujourd'hui chez nous. Même si beaucoup de psychologues de l'éducation se rapprochent des sciences cognitives, en font leur miel, disons qu'il y a encore insuffisamment, et parmi les 60 000 postes que certains candidats nous promettent, si on en mettait ne serait-ce qu'un centième à la disposition des sciences cognitives de l'éducation, je pense que ça aurait un effet non négligeable.
On le lui dira.
Voilà. Il faut collecter correctement les faits, ça c'est fondamental. Il faut faire pour l'éducation ce qu'on a fait pour la santé, donc la collaboration Cochrane qui réunit de manière aussi peu biaisée, aussi objective que possible, les meilleures informations disponibles scientifiques pour la pratique, pour la santé publique et la pratique hospitalière. Il faudrait avoir la même chose pour l'éducation, adaptée notamment aux situations d'éducation que nous connaissons. Et il faut enfin développer la recherche translationnelle. C'est quoi la recherche translationnelle? Pour les dire, en un certain sens, c'est ce qu'on fait dans les écoles, les schools of education et les sciences de l'éducation. C'est l'art et la manière de passer des connaissances scientifiques fondamentales développées en laboratoire, dans les simulations, etc., à la situation du réel. Ça n'est pas la même chose que de faire des sciences appliquées. C'est autre chose. Ça a été développé en médecine. En médecine, où les choses semblent plus carrées, hein, la bonne santé, la mauvaise santé, les germes, le bacille de Koch, tout ça, ça semble relativement simple. Eh bien, ce n'est pas simple du tout. C'est ce dont on s'est rendu compte en médecine il y a une quinzaine d'années. Et on a développé ce concept de recherche translationnelle, une manière systématique d'étudier les conditions dans lesquelles on peut passer des recherches en laboratoire à la classe et réciproquement. Ce qui implique de s'affranchir du schéma traditionnel top-down, n'est-ce pas, où le fournisseur de connaissances, c'est le scientifique, le consommateur, c'est l'éducateur, ou inversement, le fournisseur de terrain, hein, de problématique d'expérience, c'est l'éducateur, et le consommateur, c'est le scientifique. Il faut s'affranchir de ça, il faut imaginer une situation de coévolution de la problématique entre chercheurs fondamentaux et chercheurs appliqués. Alors, il faut tirer doublement parti d'éthique, comme boîte à outils, bien entendu, mais aussi comme instrument extraordinaire de collecte et d'évaluation. Ça, ce sont des thèmes qui seront énormément développés, mieux que je peux le faire maintenant, dans les heures qui suivent. Et tirer parti des situations minimales, et c'est vraiment maintenant la fin, les situations minimales, c'est des situations dans lesquelles, regardez le système scolaire français, c'est drôlement compliqué, hein, on est tous tout à fait conscients, c'est très compliqué. Il y a des déterminations, il y a des couches, il y a des traditions, il y a des intérêts, c'est extrêmement dense, les étudiants, les élèves passent un temps infini à l'école, les maîtres corrigent un nombre considérable de copies. C'est très dense, c'est très compliqué. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Mais on a l'avantage qu'il existe des situations qui sont plus clairsemées, des systèmes plus simples, des systèmes notamment, par exemple, dans des pays tels que les pays dont s'occupe justement Sancoré. Et moi-même, j'ai eu l'occasion dans mon groupe Compas de réfléchir à ce genre de questions. Ce sont des situations dans lesquelles, premièrement, en raison de la relative paucité des moyens et des dispositifs, quelque chose de relativement simple peut faire une différence énorme dans l'immédiat, et ça, évidemment, ça nous réchauffe le cœur. On est tous là dans l'espoir d'opérations couronnées de succès de ce genre-là. c'est un terrain idéal, et d'autre part, ça nous permet de nous rendre compte, dans un système relativement simple, de l'effet que peut avoir l'introduction d'une technologie telle que les téléphones mobiles dont on a parlé, les tablettes ou les tableaux, les TNI. Et ce qui est tout à fait remarquable, et maintenant c'est connu, mais ça ne l'était pas encore il y a 3 ans, hein, c'est vraiment une leçon tout à fait récente et très importante, c'est que ce que nous apprenons dans ces terrains apparemment très simples, très éloignés de nos systèmes riches, ultra complexes, etc., peut en retour être appliqué et transposé dans nos systèmes hautement complexes avec des effets qui sont bénéfiques. Et donc, je crois qu'il faut absolument tirer parti. Et c'est pour ça qu'une entreprise comme celle de Sankore me paraît tout à fait fondamentale. Je vous remercie beaucoup.
Oui. Bravo. Merci.